Ah non, 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 non. J'ai pris des rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous, puis à la veille, je l'ai supprimé. Non,
Oui, tout ça, exprès,
j'ai
oui.
toujours su... J'ai pris deux rendez-vous, et les deux rendez-vous, je les ai supprimés, je ne le sentais pas, ce truc-là. Je ne le sentais pas depuis le début.
Ben, non plus, je ne suis pas vaccinée, ni Maya, on est pas mal, Dom, toi, on est pas mal de ne pas être vaccinée. Mais depuis qu'il y a ce pass vaccinal, moi, je trouve que les gens sont encore plus soumis. C'est pas bon pour eux, par contre. Ah si, si, si. Ah si, si, si. Ah si, ils sont tout heureux de le montrer pour aller au resto, au café. On dirait qu'ils te font, ils te le regardent comme si ils sont fiers et ils te font marronner, comme si que ça me faisait quelque chose.
C'est vrai, mais dans mon rêve, tous les passes étaient désactivés, l'économie s'arrêtait.
Ils ont une jouissance.
Plus rien.
Ouais, mais ils ont une jouissance à trôner le pass, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça, tu vois, c'est d'accord. Bon, ils sont manipulés, nanani, nanana. Mais le fait qu'ils arrivent pas, qu'ils sont complètement endormis, mais ils sont comme des œillères. Et tu veux leur parler pour leur expliquer.
Mais non, mais c'est normal. C'est normal, regarde, tous les petits chefs dans les bureaux, tout ça, ils sont contents d'avoir des privilèges par rapport aux autres employés. Et la sensation d'être au-dessus des autres, ça leur fait un plaisir immense. Et je pense que c'est un sentiment de puissance, c'est un sentiment de frustration parce qu'ils n'ont plus d'aventure, ils n'ont plus de vie. Toute leur vie est conditionnée. Vous allez vous amuser, vous avez des parcs. Vous voulez faire du sport, vous avez une salle. Toute leur vie est conditionnée hein, dans tous les moments de leur vie. Alors bon, ça leur fait du bien.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison. Et puis Myriam, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de pouvoir en fait transgresser et de pouvoir en fait être violent avec l'autre, l'individu, quoi. C'est-à-dire que c'est la détestation de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on voit bien qu'avec le Covid et principalement vis-à-vis des personnes qui ne sont pas injectées, il y a une possibilité de transgresser dans la violence et le système le permet. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il faut vraiment conscientiser que l'individu, et pardon de le dire, la majorité d'hommes, mais qui ont du pouvoir, qui sont dans des situations qui leur permettent de le faire, parce qu'ils sont aussi conditionnés, portent le mal en eux. Et je dirais même plus loin, à partir du moment où ils plongent dans leur bas instinct et qu'ils ne conscientisent pas, alors que les animaux n'ont pas la même conscience que nous, d'accord, il y a un problème de sous-animalité à un moment donné. On le voit bien d'ailleurs avec ce qui s'est passé dans notre histoire. On peut dire que c'est un problème d'obéissance à l'ordre, c'est un problème de groupe, mais il arrive à un moment donné où la question de la sous-animalité se pose. Il n'y a pas que le groupe, les injonctions, à un moment donné, c'est purement des pulsions criminelles, hein. Avec une jouissance qui est cérébrale, si tu veux. Donc, on le voit bien et l'histoire nous l'a démontré. Donc, il faut bien le conscientiser, me semble-t-il, cela.
Tout à fait d'accord. C'est tout à fait cela, oui.
Ah,
mais enfin, je pense qu'il souffre. Il souffre quand même.
Mais je ne pense pas, non. Je ne pense pas parce qu'il y a véritablement une atrophie de la conscience. Et une habitude addictive du cerveau de fonctionner de la sorte. Donc, en fait, il y a une dissociation de la personnalité avec un décompensement cérébral.
Le désir de devenir à l'entour des bourreaux.
C'est plus un humain, alors. C'est plus un humain, il est à côté de l'humain.
Bah, c'est-à-dire que les cerveaux sont rincés, quoi. La personnalité qui est prédominante, elle est complètement criminogène. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, vu que ces gens-là sont dans un même groupe qui a un mode de fonctionnement comme ça, si tu veux, c'est l'emballement en fait et une hyper-excitabilité du cerveau qui fait que le cerveau ne peut plus fonctionner différemment, quoi.
Et à un moment donné, quand ils vont tomber par terre raide, tu vas voir, ça sera fini, on ne pourra plus rien faire. C'est affreux.
Donc voilà, toi, c'est une habitude, c'est addictif, quoi. C'est un mode de fonctionnement, quoi.
Mais c'est vraiment des criminels.
Bah des malades mentaux au sens psychiatrique, mais en col blanc, en fait.
Oui, en col
mais
blanc.
Mais ça ne date pas que d'hier, en fait. On le voit, la majorité des gens s'en rendent compte aujourd'hui avec ce qui se passe, mais ça date depuis très longtemps, sauf que les gens étaient dans une forme d'illusion et le choc n'était pas assez violent sur un point de vue psychique pour se rendre compte de ce qui se passe, quoi, en fait.
On va écouter Guardian, tu es revenu, et après Jennifer. Guardian, tu es parti, vite, vite, vite. Mais dès que t'es parti, t'es parti. Chris, il est pénible, il coupe la parole. Oh là là.
Oh, c'était...
Guardian, excuse-moi, une petite seconde, Myriam. Est-ce que tu peux... Je vais sortir, je vais revenir au Space. Tu me réinvites comme co-hôte, si tu veux, parce que je vous entends pratiquement plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
D'accord. Alors, vous m'entendez, les autres?
Oui,
bonsoir,
Darmanin. Oui, ça fait du bien. Non, mais je suis parti, c'était hyper anxiogène, mais j'ai trouvé qu'il était agressif et mal poli. D'accord. Comme j'ai pas l'habitude de l'impolitesse sur tes spaces, ben, j'ai préféré sortir Darmanin et sa femelle. Voilà, je suis parti, mais pardon, j'ai fait exprès de dire que c'était. Je mets pas l'ambiance, enfin, je mets pas le ton. C'était le ton. Si on peut dire à quelqu'un, laisse-moi finir, on dit pas à quelqu'un, ferme ta gueule, quoi. Voilà, bon, pardon.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, me voici de retour, et heureux de vous retrouver. Et je voulais vous dire un truc, bon, ça a l'air de rien, mais vous savez que j'ai récupéré une chienne qui était à ma mère qui est morte après sa vaccination, et j'ai cette chienne depuis hier, et donc maintenant quand je sors de mon quartier, les gens qui me connaissent me demandent « Ah, c'est à toi ce nouveau chien ?» Je dis « Non, c'est à ma mère qui a été tuée par le vaccin. » Et à mon grand étonnement, personne ne répond. Il n'y a pas de « Mais non, t'es sûr ?» Personne ne répond. Tu vois, donc c'est intéressant, parce que du coup, je fais exprès, hein, partout, au tabac, bon, les pharmacies, de toute façon, j'y rentre plus, et j'ai deux chiens maintenant qui arrosent toutes les vitrines, mais les gens qui me connaissent me disent, et qui connaissent Darmanin, du coup, me demandent à chaque fois, oh, quel beau chien, et je leur dis, voilà, elle a été assassinée par son médecin, elle est morte la semaine dernière, 7 jours après sa 3e dose, alors qu'elle n'était pas cardiaque, arrêt cardiaque, voilà. Et ben, personne n'essaye de me convaincre que peut-être que ceci, que cela. Tu vois, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous raconter ça. Donc, comme quoi, les gens... il y en a qui ont des doutes, et ceux qui disent que ce truc sauve des vies, ben, en fait, quand tu leur dis, et que tu dis que c'est ta mère, donc c'est pas quelqu'un qui t'a dit que machin, que la copain, ben, ça te touche, ben, personne répond. Voilà, je voulais vous dire ça. Sinon, tout va bien. Ben, écoutez, toujours ma petite résistance avec maintenant mes doubles chiens, mes deux chiens.
Bravo, Guardian. On va écouter Jennifer et ensuite on écoutera Ray Ward, qui est le portrait craché de Monsieur Pfizer. Il a la photo de Pfizer. Encore un rigolo. On t'écoute, Jennifer.
Oui, moi j'avais une question pour Maya. Donc tout à l'heure, je me suis retrouvée dans un space donc, de médecins. Donc je voulais juste écouter ce qu'ils disaient par rapport au vaccin, enfin à l'injection. Et d'ailleurs, ils m'ont injecté parce que je faisais que de rigoler. Et du coup, je me dis, mais enfin, par rapport au cerveau, enfin, comment c'est possible que tous ces gens puissent encore trouver, enfin, je sais pas, des arguments, enfin, qui, enfin, moi, quand je les écoute, je me dis, mais d'où ils sortent tous ces trucs, enfin, c'est horrible ce qu'ils font, et comment ils peuvent encore se regarder dans un miroir?
Bah parce que ils ont pour la plupart, après je sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est-à-dire qu'ils ont une atteinte en fait de l'appareil cognitif.
Ah bah, je peux te dire, par exemple, j'ai entendu un qui disait, mais par exemple, oui, il y a des myocardites, mais c'est réversible, et puis c'est tellement infime par rapport, c'est très très peu de personnes par rapport à, en gros, limite, c'est même si c'est très peu de personnes, je veux dire, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre.
Ouais, bah, c'est tout à fait en fait la banalisation du mal. Ce que je veux dire, il suffit de relire ou de lire Hannah Arendt, c'est exactement pareil. Et on voit bien que le corps médical, durant au moins ces 30 dernières années, avec un capitalisme criminogène qui a serré en fait le corps médical, au lieu d'essayer justement de sortir de cette forme de compression, en fait s'est soumis et a été complètement écrasé. Donc ils sont dans l'impossibilité en fait d'exister parce qu'ils ont des dommages, et on voit bien qu'ils ont banalisé le mal. Alors c'est une forme aussi de protection, parce que eux sont exposés en fait à toute forme de maladie, et sur un point de vue émotionnel, ils sont obligés de s'endurcir. Ça c'est la première des choses, mais vu qu'ils n'ont pas été capables en fait de se sortir d'une forme de harcèlement du système dans lequel ils ont été. D'accord. Ils ont banalisé le mal du système, parce qu'au départ, ils sont aussi victimes en groupe, c'est-à-dire qu'ils ont Il y a eu une destruction des hôpitaux, les salaires sont très mal payés, les conditions de travail, on n'en parle même pas, on pourrait en parler encore. Donc eux-mêmes n'ont pas réussi à s'extirper en fait de toute cette contrainte et de toute cette de ce côté anxiogène et criminogène, parce que beaucoup ont et sont en burn-out, il faut quand même le dire. Alors après, ils le banalisent, c'est-à-dire que c'est jamais grave. Rien n'est grave, donc c'est ce qu'on appelle la banalisation du mal. Donc avec ce qui se passe aujourd'hui, eux, ils font un transfert. C'est-à-dire ce qu'ils ont vécu par le système, tout ce phénomène, en fait, de ces rages, eh bien, sans s'en rendre compte, ils ont une détestation de l'autre. C'est pas facile, quand même, d'être médecin. C'est-à-dire que tu vois la maladie, la mort... la pathologie, tu peux que être dépressif à un moment donné, même si tu tiens le coup, quand tu travailles 12 heures par jour, si tu veux, et qu'en plus, tu es dans des situations où le salaire n'est pas exceptionnel, tu n'es pas reconnu par ta hiérarchie, tu peux être victime de harcèlement, ici ou là, si tu veux, bah, toi-même, tu es dépressif, et puis après, la dépression, elle est chronique, et puis après, tu banalises cela, et puis après, c'est normal. Donc, en fait, on est véritablement dans des relations... de la majorité du corps médical qui est profondément toxique, qui a été complètement banalisé et qui banalise le mal. Ce que je veux dire. Et après, c'est une question d'habitude. Les cerveaux ont été habitués à la banalisation, de la maladie, à la banalisation du mal, à la banalisation en fait du conformisme, parce que la très très grande majorité se conforme à une pensée dominante, c'est-à-dire que les mecs ils réfléchissent même plus, ils lisent, ils abdiquent. Et ils font, c'est-à-dire que ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'il n'y a plus du tout d'intelligence, en fait, quelque part. C'est-à-dire que ils adhèrent à une pensée dominante pour faire du pognon, du pognon, du pognon. Alors, effectivement, tu as de très bons médecins, tu peux avoir de très bons chirurgiens, c'est pas le problème. Mais dans la globalité, c'est extrêmement préjudiciable, cette médecine, sauf la médecine d'urgence qui est fabuleuse. Cette médecine est extrêmement préjudiciable depuis au moins une trentaine d'années parce que les médecins, les chirurgiens et tout le corps médical ne réfléchissent plus, ils sont dans des protocoles et c'est de la déshumanisation. C'est ça le problème et c'est ce qui est en fait dévoilé avec le Covid.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est complètement, exactement, c'est le dévoilement de l'humanité en fait, de tout ce qui se passe depuis au moins 30 ans. C'est une loupe et c'est pour ça que je dis que effectivement c'est terrible ce qui se passe, d'accord ? Mais d'un autre côté, c'est tellement fascinant parce que ça permet en fait de pouvoir avoir une fenêtre de tir dans tout ce qui se passe depuis au moins 30 ans de manière globale et de manière générale. Et on le voit bien aussi par la force des choses qu'avec ce qui se passe, c'est tellement un chaos dans nos têtes sur un point de vue psychique, cérébral et neuronal qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir un changement, si tu veux, avec un traumatisme par la force des choses.
Si je comprends bien, c'est que eux, comme ils ont été donc maltraités, enfin sur tous les points dans leur métier depuis tant d'années, au lieu de se mettre avec nous aujourd'hui et de dire bah vous voyez dans quel état vous avez mis la médecine, les hôpitaux, etc. Vu qu'ils ont été tellement habitués pendant tant d'années à ce mal, bah du coup ils en ont. C'est devenu logique pour eux, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de se retourner vers leur bourreau. Non. Bah parce qu'en fait, ils sont dans l'illusion de faire partie, en fait, du système gagnant et d'être dans une position dominante. Un médecin se positionne de manière dominante par rapport à son patient parce qu'il se dit qu'éventuellement, il peut lui sauver la vie. Est-ce que tu comprends? Alors, ils réagissent pas tous comme ça, mais la plupart, et au jour d'aujourd'hui, ils fonctionnent comme ça. C'est ça, tout le mal qui est porté dans l'individu. Ah, alors que normalement... tu essayes d'être à un équilibre, si tu veux, dans la relation. Il n'y a pas de relation. Moi, je suis contre toute forme, en fait, de hiérarchisation et de domination, quel qu'il soit, à un moment donné. C'est pas forcément une question d'égalité, parce qu'il n'y a pas d'égalité. tu peux avoir une expertise dans un sens, je peux en avoir dans une autre. Nous avons toutes les deux une complémentarité, d'accord ? Voilà. Et à partir du moment où on est dans une société avec une forme, si tu veux, de domination d'un individu à un autre par rapport à ses diplômes, par rapport à différentes choses, si tu veux, il y aura que des abus, inévitablement, parce que il y en a qui vont abuser, en fait, d'une position dominante par rapport à une situation où l'individu peut être dans une situation de vulnérabilité. Et dans ce sens-là, précisément, c'est abject, c'est ce qu'il faut combattre, dénoncer, absolument. Et malheureusement, la très grande majorité des soignants, des médecins et autres, dans le domaine de la médecine, peut-être sans s'en rendre compte, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre aujourd'hui, il faudrait d'ailleurs même apprendre à l'école, à conscientiser, c'est-à-dire que apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à dire, en fait, ton comportement, tes paroles, il faut conscientiser parce que tu peux occasionner un préjudice à l'autre sans forcément pointer du doigt pour culpabiliser l'autre ou pour le criminaliser, mais à prendre conscience qu'en fait, nous sommes des individus de conscience avant tout et se responsabiliser de manière individuelle. On ne peut pas, comme ça, adhérer à un système, adhérer en fait à une profession et aller au bazooka. C'est pas possible.
Ouais, et ce qui est incroyable, c'est que du coup, dans ce space, il y avait donc un infirmier, mais donc qui est vacciné, et qui était en train de dire « Oui, mais il faudrait que les gens... l'obligation n'est pas vaccinale, donc les gens ont le droit de choisir. » Donc, il était un peu de notre côté, dans le sens où, en fait, il n'est pas pro ou contre. Enfin, voilà, lui, il fait son métier, mais j'avais trouvé en lui quand même de l'humanisme, parce qu'il dit ben, les gens évaluent le risque pour eux, le bénéfice-risque, et par la suite, ils choisissent. Et puis, il disait bien que de toute façon, les gens ont été menés en bateau. Enfin, ils savent plus quoi penser. Donc, il était en train de nous défendre. Et du coup, l'organisateur, comme il a parlé un petit moment, il lui a dit « Oui, mais bon, la prochaine fois, il faudrait que tu parles un peu moins, etc. » Enfin, on a compris qu'en fait, il voulait que ça l'intéressait pas, quoi. Qu'il n'était pas de leur côté. Donc, ils ont fait une réflexion, quoi. Et je trouve... Enfin, j'ai relevé ce point et je trouve ça quand même aberrant, quoi, de leur part.
Bien, ben on va écouter Reward et Guardian. Reward, Monsieur Pfizer, on t'écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir Myriam, bonsoir à tout le monde. Albert Bourla, CEO of Pfizer. Je vous ai écouté attentivement et c'est vrai qu'il y a des vérités pour ce qui a été énoncé, notamment Maya qui a parlé de programmation neurolinguistique, de nouvelles langues et d'arguments d'autorité, n'est-ce pas ? C'est un petit peu les principes qui ont permis effectivement à ce processus de pandémie de prendre effectivement au sein de la population, sans quoi effectivement rien de tout cela n'aurait été possible et je n'aurais pas effectivement gagné des milliards d'euros d'actions en vendant celle-ci à l'annonce le 6 novembre 2020 de l'efficacité de mon vaccin à 95%, n'est-ce pas ? Il faut bien comprendre que nous assistons à la plus grande ingénierie sociale de toute l'histoire de l'humanité et que la plupart, effectivement, des gens sont tombés dans le panneau. Pourquoi ? Car nous avons très simplement agi sur une thématique qui est, j'ai envie de dire, universelle, qui est la peur. Agiter la peur, comme dirait Talleyrand, avant de se servir, agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est exactement ce que nous avons fait, n'est-ce pas ? Nous sommes plutôt fiers, moi, Ursula et beaucoup d'autres, d'avoir réussi cette première étape et nous allons
bien... J'aimerais bien t'agiter un peu, moi. J'aimerais bien t'agiter un peu, moi.
Non, ne soyez pas très, très énervé, ça va aller. Hein ? Il faut faire la troisième dose et nous allons bien évidemment sortir la pilule qui va tous nous sauver, moyennant 700 euros par pilule payée par la Sécurité sociale. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris nos dispositions en mettant en place des usines en France, car la France, effectivement, est l'un des pays où le système social est le plus généreux, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques, bien évidemment. Voilà, je vous laisse discuter et je prends le pouls avant de répondre à vos questions.
Alors, cher ami, comment se fait-il que... Déjà, pourquoi tu te mets la tête de Pfizer? Franchement, tu vas te faire manger par certains intervenants.
Mais non, mais parce qu'il est extraordinaire, Albert Bourla. Il est extraordinaire. Le type te vend un produit qu'il ne s'est même pas injecté lui-même. Tu vois, c'est pour ça que c'est là qu'on reconnaît les bons dealers. Hein. Le bon dealer ne touche jamais à son produit. Et que je trouve que... il faut bien comprendre une chose, c'est que on avait à peu près 4 vaccins en lice il y a un an. Aujourd'hui, on en a pratiquement plus qu'un, c'est Pfizer. Donc, ils ont choisi, effectivement, ils ont choisi leur canasson, j'ai envie de dire. Mais concrètement, on est déjà dans la phase 2. On l'a bien compris, hein, l'épidémie est en train de piquer, à part s'il nous ressorte un petit virus un peu plus virulent, histoire de remettre les choses en place. Donc, les gens sont malheureusement tombés dans le panneau. J'entends les parler de mots conscientisation, de masse critique, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Moi, ça fait effectivement 2 ans que j'agis sur ma chaîne pour essayer d'avertir, d'alerter, et tout ça de façon sourcée avec des captures d'écran, des liens et des sources. Mais quand on parlait de passe vaccinal il y a 2 ans, c'était presque dystopique. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est une réalité. Et à tout ce qui vient d'être dit, moi, j'oppose aussi le principe de réalité. C'est-à-dire que les gens sont ils ne veulent pas quitter leur zone de confort. Et beaucoup de gens ont bien conscience de la supercherie qui a lieu. Sauf qu'ils ont décidé de vivre avec, à partir du moment où ça ne les atteignait pas personnellement.
Je te remercie. On va écouter Guardian.
Oui, je voulais compléter ce que disait Maya par... mon expérience, je ne sais plus qui posait la question, je crois qu'elle est partie. Justement, sur pourquoi, sur les spaces où il y a des médecins, enfin les supposés médecins, pourquoi ça passe cet argumentaire. Et je voulais juste vous raconter que moi, j'ai souvent vu ça dans ma carrière en bourse, avec des gens qui achetaient des actions qui faisaient faillite, et ils me trouvaient toujours des arguments pour me dire que c'était peut-être possible que ça remonte, qu'ils s'étaient convaincus eux-mêmes. Ils n'écoutaient rien d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des médecins. D'abord, ils ont un intérêt d'argent. Ils ont tout intérêt à ce que ça continue parce que c'est l'orgie de pognon depuis 2 ans, non-stop. Et je pense qu'ils se sont convaincus eux-mêmes de leur discours. Même si on leur explique par A plus B, de toute façon, ils sont sûrs d'eux. Alors qu'ils ne savent rien. Ils se croient sachant. Et donc, ils sont sûrs d'eux. Voilà. Et je pense que, moi, j'ai vu ça, en tout cas, sur les marchés boursiers. Et j'étais souvent très étonné de voir des gens me trouver des arguments qu'ils étaient prêts à défendre, mais limite devenir agressifs pour me soutenir mordicus, qu'eux avaient raison alors qu'ils se prenaient le mur. Voilà, et c'est peut-être le début de la fin aussi dans leur narratif. Peut-être pour ça aussi.
Ouais, c'est très très juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à s'auto-convaincre en fait de ce qu'ils disent. Et ils pensent qu'ils sont sachants alors qu'ils ne l'ont jamais été. Ça, c'est très juste aussi.
Tout à fait. Et moi, tu vois, j'avais des clients qui disaient que moi, je travaillais sur les marchés financiers, donc c'était mon job. Ben, j'avais des clients qui étaient persuadés d'en savoir plus que moi. Limite même que moi, j'étais le crétin et qu'eux étaient sachants spécialisés. Et ils me sortaient des argumentaires pour essayer de me faire douter. Et mon doute leur permettait de renforcer leurs convictions, puisqu'ils arrivaient peut-être à me faire douter. Donc c'était un discours sans fin, jusqu'au moment où je leur disais « Bon, faites ce que vous voulez ». Voilà. Et là, ils perdaient leurs moyens. Mais tant que je luttais, ils me trouvaient des argumentaires, des trucs de dingue. Voilà. Et donc, ça m'a rappelé ce que tu disais. Et je voulais l'illustrer par un cas pratique où on a effectivement des gens qui achètent des choses et ça se pète la gueule, on sait que c'est mort. Et pourtant, ils les gardent, ils continuent mordicus. Voire même certains en rachetaient. Un truc de dingue. Voilà. Je voulais dire. Mais je crois qu'elle est partie quand c'était Jennifer ou quelque chose comme ça. Voilà.
Merci, Guardian. On va écouter Fonzi. Bonsoir, Fonzi. Fonzi, tu veux pas causer? Bien. Tominux, on connaît pas. Bonsoir, Tominux. Tominux, tu as la parole. Bien. Max 12, qu'est-ce que tu as comme nouveauté aujourd'hui?
Et pas grand-chose. Bonjour, bonjour. Pas grand-chose. Je voulais juste clôturer sur les beaux discours de Maya. Alors, j'ai un... attendez une minute. un dicton de Goethe qui disait que tant que tu ne sais pas mourir et renaître, tu n'es qu'un passant affligé sur la terre obscure. Et en fait, ça récapitule un peu tout le discours de Maya, c'est que on est rentré dans un air où, ben, justement, il va falloir qu'on sorte de la vie dont on avait l'habitude. Et c'est à nous, là, de recréer une vision, la vision d'un nouveau monde, quoi. Et l'éveil des consciences. Mais, et par la force des choses, je pense que ça va se faire. Ça bouge pas mal, là. Canada, Australie, ils sont en train de faire des convois. Et puis là, j'ai vu qu'il y a un convoi qui se fait en Europe pour monter à Bruxelles. Donc, faut pas désespérer. Il y a une chose qui est en spiritualité qui est rien n'est au-dessus de l'amour, et je pense pas que les gens qui peuplent cette terre soient complètement psychopathes. C'est nous qui avions le nombre, donc tout ça, ça va prendre du temps, mais bon, je pense que les choses vont bouger dans le bon sens. Et puis après, ben, les autres se réveilleront petit à petit, quoi. Il y en a qui se réveilleront pas, mais bon, ça, c'est pas.
Non, mais ils seront obligés de suivre, parce que la vapeur.
Oui, justement.
C'est-à-dire
ouais.
que y a la majorité de la masse sont des suiveurs, en fait, sur oui. une forme de domination. C'est-à-dire qu'ils suivent quand c'est un mouvement qui est dominant. C'est ça qui. Donc, ils se sont que des suiveurs. Il suffit oui, tout ouais. simplement, c'est la plus grande des difficultés, mais ouais. d'inverser la vapeur. Et eux suivront voilà. par la force des choses, quoi.
Voilà, mais tu as besoin que 25% de la population qui bouge et les autres suivent.
Oui, ou même moi, il suffit d'être déterminé, voilà. hein, si tu veux, hein, d'être voilà, déterminé mais... et puis d'être structuré, c'est tout. Hein.
Mais bon, je pense que là, bon, je jauge. Moi, je faisais comme pour en revenir à ce que disait Reward. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je poste. Et ça fait 15 ans que je poste sur Internet. Et j'ai commencé à poster Erin Rousseau. Qui est sorti il y a 20 ou 30 ans aux États-Unis, qui dénonçait tout ça. Hein. Après, il y a eu Harry Vox en 2011-2012, qui était tombé sur le plan de la Fondation Rockefeller. Ils l'ont toujours sur leur site internet. Hein, j'ai été voir il y a quelques semaines, qui parlait de simulation de pandémie, tout ça. Donc bon, ça fait longtemps que c'est sorti, mais bon, c'est
moi ça également. Fait.
Oui, il y a eu Claire Sévrac en France, oui. Bon, moi, j'étais pas trop en France, donc bon, je connaissais pas trop, j'ai connu quand je suis rentré.
Ou Serge Bonnage dans les années 70.
Ouais, il y avait plein de monde. Et donc, on voit le temps que ça a pris, et puis là, ben, on est devant le mur, quoi. Et puis bon, ben, voilà, quoi. Moi, je pense que, depuis que je fais ça, là, cette semaine, j'ai vu que les Canadiens, là, en Australie, sont en train de faire des convois pareils. Là, et les convois pour monter à Bruxelles en Europe, là, ça va bouger. On va les sortir, on va y arriver.
Au Brésil, ça bouge aussi. Hein.
Bon,
mais
les bon, amis, je refais un spice.
Au Brésil.
Au Brésil, donc ça bouge de partout. Ouais.
Je refais un spice un peu plus tard, je vais préparer le souper à papy, me reposer un petit peu, enfin me reposer. Me détendre un peu, puis je reviens plus tard, et puis je rappellerai tout le monde. Et Maya, bien évidemment, si elle est disponible, et bien évidemment, tu seras la première, aux premières loges. D'accord, Maya? Ok. Je vous fais un bisou, mes amis, puis à plus tard.
Bisous à toi, Myriam. Moi, je vais aller reprendre la bonne nouvelle dans les autres salons. Vaseline.
On va écouter les autres un peu. Bisous.